Euroinfo Pyrénées Métropole 96.6. De la musique et des flash infos.
Les rendez-vous de Nicolas. Mais qui êtes-vous ?
En 1967, un accident du travail bouleverse à jamais le cours de votre vie, Jacques Ménestré. Lors de cet événement, vous avez vécu une décorporation révélant une réalité au-delà de la conscience ordinaire. Commence alors une traversée intérieure faite d'épreuves, de révélations et d'un face-à-face sincère avec vous-même. Ce livre retrace ce chemin. Non pas comme un récit spirituel dogmatique, mais comme une quête humaine sincère, lucide et universelle. Un témoignage puissant qui invite chacun à questionner ses certitudes et à explorer, avec humilité, la profondeur de son être. Le quatrième de couverture de votre dernier ouvrage, Jacques Leroux Ménestré, un point de vie à un point de vue. Un livre émouvant, profond, authentique sur votre parcours. Bonjour Jacques.
Bonjour et merci de votre accueil qui fait toujours plaisir de pouvoir communiquer. Alors, je voudrais enlever une ambiguïté de suite. Je m'appelle Jacques Leroux Ménestré, mais j'ai été adopté par un homme qui s'appelle Claude Ménestré. Et les 20 premières années de ma vie ont été des années difficiles. Pourquoi ? Parce que j'étais enfant martyr pendant 13 ans. Et j'ai dû, de 13 ans à 20 ans, me battre comme un loup pour pouvoir survivre. Et à 20 ans, je pensais... Alors, je vais vous faire sourire, parce que quand j'étais petit, je me cachais derrière une pile de bois et je disais, t'inquiète pas, quand tu seras grand, ça ira mieux. Et je pensais qu'en grandissant, ça irait mieux. Et à 20 ans, effectivement, en 67, je suis tombé de 8 mètres. Et là, le choc, je ne me suis pas du tout rencontré. J'ai rencontré un autre univers, qui est un univers alors très controversé aujourd'hui. Alors, je dis très controversé parce que, comme on n'a aucune preuve que ça existe, c'est vrai qu'on peut toujours dire que ça n'existe pas. Mais je dirais que la stupidité n'est pas visible et pourtant elle existe. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et les questions que je me suis posées en sortant de cet accident où j'ai fait 2 ans et demi d'hôpital quand même, hein, c'est pas simple, hein, parce que j'ai dit j'ai beaucoup de chance, je suis tombé de 8 mètres, j'ai eu 8 fractures, 9 mètres j'étais mort, donc je suis encore vivant. Mais c'est le lourd combat, le combat avec ses certitudes, le combat avec soi-même, le combat avec, je dirais, ses interdits et surtout avec ses faiblesses. Et je crois qu'un être humain il ne doit pas avoir peur de ses faiblesses, il doit devenir une force. Et c'est ce parcours que j'ai voulu dans ce livre, de cette rencontre, de ce travail. Alors je l'ai fait tard, ce livre, hein, parce que c'est mon premier livre et je l'ai fait à 78 ans. J'en ai 79. Je l'ai fait, pourquoi ? Parce que j'avais été au bout de tout ce que je pouvais comprendre de moi-même. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est surtout, je dis bien surtout, dire que c'est possible, même quand on va mal, de regarder à l'intérieur de soi, pour essayer de, je dirais, de contrecarrer ses propres défauts et pour en faire des forces.
Un accident peu banal, puisque vous nous racontez dans votre ouvrage une décorporation, vous allez vous voir au sol. Alors, vous allez nous expliquer, alors Jacques Leroux Ménestré ou Jacques Ménestré pour cette interview ?
Alors, le livre est au nom de Jacques Ménestré, je l'ai écrit uniquement pour remercier Claude Ménestré. Il faut savoir que M. Ménestré Claude, son père, était receveur à la poste de Pau. Donc, vous voyez, j'habite à Pau, je suis venu habiter à Pau, et je trouve que de mettre Jacques Ménestré, Si je l'avais écrit au nom de Leroux Ménestré, Leroux était tellement agressif parce que ses 13 ans d'enfant martyr battu auraient donné dans ce livre pas du tout d'espace de gentillesse, mais de méchanceté. Pas de méchanceté, mais j'aurais voulu aussi dire, attention, il y a des enfants martyrs, il y a des... Et ce n'était pas le but. Le but, c'est dire que même un enfant martyr, même un enfant battu, peut s'en sortir à condition qu'il se regarde lui-même et qu'il s'accepte et qu'il s'aime. Alors, je l'ai écrit au nom de Jacques Ménestré pour remercier justement celui qui m'avait donné, je dirais, l'impression que le mot « papa » avait un sens. Mais alors, pas du tout autre chose.
Alors, pour plus d'apaisement dans notre échange, je vous appellerai Jacques Ménestré. Une décorporation, Jacques, que vous décrivez en détail. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer ce qu'est une décorporation suite à cette chute de 8 mètres lorsque vous aviez 20 ans ?
Voilà, alors on pourrait l'expliquer. Alors scientifiquement, on pourrait mettre des ondes qui sont des ondes d'énergie vibratoire, ainsi de suite. Mais on n'est pas là dans votre émission pour faire du scientifisme. On est là pour justement expliquer les choses. Je crois que la décorporation, c'est un choc. Un choc, c'est quelque chose qui arrive brutalement. Mais on peut l'avoir par un accident, on peut l'avoir par... Il y a des personnes qui finalement ont appris une très très mauvaise nouvelle et qui vont tout d'un coup sortir de leur propre conscience. Quand c'est arrivé, je suis tombé de 8 mètres et le choc a été violent, hein, parce que 8 mètres sur le ciment, c'est pas facile. Et là, tout d'un coup, je me suis senti, c'est pas une vibration, je me suis senti aspiré hors de mon corps. Et je me suis vu au sol, allongé, avec des gens autour de moi qui essayaient d'apaiser, des gens qui allaient secourir. J'étais là, bien, sans peur, sans difficulté. Je voyais la scène, je me voyais au sol. C'est tout à fait curieux comme sentiment. On voit, et puis tout d'un coup, comme dans un fondu enchaîné, c'est, vous savez, comme dans un film où on sort d'une scène pour à une autre, je me suis retrouvé dans un espace... Je dirais que c'était la ville, hein, c'était en dehors de tout. Ce qui m'a surpris, c'était le silence. C'était un silence. Alors, après, avec le temps, et vous savez, j'avais 20 ans, ça fait 59 ans derrière, je dis, je suis décorporé sans mes oreilles, donc je n'entendais pas. C'est pour ça, je le dis avec un peu d'humour, mais c'est la réalité. Donc, là, j'ai vu une ville, il y avait des gens, et alors ce qui est tout à fait surprenant, et ce qui m'a énormément surpris, c'est que je passais dans la rue, il y avait des gens, j'essayais de leur parler, j'étais invisible. Et pourtant, j'étais là. C'est tout à fait curieux comme sentiment. Et ce qui m'a affolé, c'est ce silence absourdissant. C'était terrible. Et alors, je me suis senti un petit peu dans l'affolement et je me suis retourné. Et là, j'ai vu une forme brillante qui est venue vers moi, qui m'a attrapé. On a traversé les murs. Et on est arrivé dans un espace qui s'est rempli d'images. Et ces images, c'était des images que je connaissais bien. C'était ma vie. Et de voir sa vie avec ses défauts, parce qu'on ne voit pas ce qui est beau aussi, hein, on voit aussi ce qui est mauvais, sans pouvoir changer. Et ça m'a surpris. Et des fois, c'était tellement cru, ces images que je voyais de ma vie, de mon enfance, de mon père, de mon adolescence et des bêtises, de la fugue que j'ai faite, ainsi de suite, tout ce qui s'est passé dans mon adolescence, ça m'a un peu troublé. Et cette présence m'a dit un mot. Alors, il ne me l'a pas dit avec des mots, hein. il me l'a dit dans la pensée. Il m'a dit, regarde à l'intérieur de toi pour voir qui tu es et ce que tu fais. Et je suis revenu dans mon corps. J'ai vu mon corps comme dans un feedback. Je suis revenu dans mon corps et là, c'était l'hôpital. Et là, tout ce que j'ai vu m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il faut regarder à l'intérieur de soi. Il faut regarder qui on est. Même si on est une mauvaise personne, ça ne veut rien dire d'être mauvais. On peut changer. Comme je dis, on peut s'améliorer, on peut faire quelque chose d'autre de soi. Ça m'a toujours marqué et j'ai mené toujours ma vie en regardant à l'intérieur de moi. En regardant, plutôt qu'écouter à l'extérieur, je regardais ce qui se passait en moi.
Dans cette lumière, qui était cette personne qui vous parlait ? Est-ce que vous l'avez vue ?
Alors, dans le livre, je l'explique, c'était une forme lumineuse avec son centre visage, un visage, je dirais, C'était comme un masque blanc de la Comédie dell'Art. Vous savez, c'était un visage blanc. Après, je l'ai rencontré, cette personne. Je l'explique. Hein, je l'ai rencontré après, dans mon parcours de vie. Je l'ai rencontré. J'ai discuté avec lui, mais pas par mon intermédiaire. J'ai discuté avec lui par l'intermédiaire de Paul, une amie, qui était une astrologue karmique, quand je faisais des émissions radio. Mais après, ça sera vos questions, sans doute. Mais je crois que cette personne, je ne l'ai pas identifiée parce que je ne la connaissais pas. Hein, ce masque blanc, je pense que ce masque blanc n'a pas voulu me montrer autre chose que, je dirais, la simplicité ou le détachement. Il n'a pas voulu montrer une personne particulière. Puis, il faut dire que je ne connaissais pas mon grand-père, ma grand-mère. Je connaissais, mon père était vivant. Je connaissais personne qui pouvait prendre ce visage pour me parler. Voilà. Donc, c'est curieux ce que je dis, mais c'était un masque blanc.
Donc, de longs mois d'hôpital, vous avez beaucoup souffert.
Oui.
C'est une rupture dans votre vie, comme vous le dites. Vous prenez attache avec la méditation. Qu'est-ce qui se passe exactement entre cette souffrance, cette immobilisation, cette réflexion? Qu'est-ce qui vous pousse à cette rupture et pourquoi?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que dès que je me suis un petit peu, que j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu une dame habillée en blanc au-dessus de moi, j'ai posé la question « Où suis-je ?» Parce que je sortais d'un contexte pour arriver à un autre. « Où suis-je ?» Et cette dame, qui était l'infirmière du centre de réveil où j'étais, elle m'a dit « Vous avez eu un accident, vous êtes à l'hôpital de Limoges. » Et là, tout d'un coup, j'ai eu une angoisse qui est arrivée. Mon cœur s'est accéléré, j'ai eu l'impression d'étouffer. Je ne sais pas comment j'ai pris une profonde inspiration. Une deuxième, une troisième. Et puis, petit à petit, mon cœur a commencé à ralentir. Et j'ai retrouvé mon sens. Et là, j'ai compris que notre respiration était une puissance extrême. C'était quelque chose de très puissant pour maîtriser nos émotions. Et parce que nous vivons nous sommes des êtres d'émotions, et les émotions sur la peur, la joie, et ainsi de suite, vous remarquerez que votre respiration n'est pas la même. Quand on est triste ou quand on est heureux, ou quand on a peur, la respiration n'est pas la même. Et donc, ce qui veut dire que j'avais compris que la respiration pouvait faire quelque chose. Et alors, ce qui est terrible dans l'hospitalisation, la douleur, on s'y fait, parce que j'étais allongé sur le dos, j'avais des appareillages de poulies qui me tiraient la jambe pour faire une extension. J'avais la fracture du fémur, le col du fémur. Donc, c'était quelque chose de puissant, hein, comme douleur. Et ce n'est pas celle-là qui était la plus douloureuse, parce qu'on s'y habitue. Le plus douloureux, c'était quand les infirmières arrivaient, le bassin, vous nettoyez, c'est la pudeur. Vous êtes tout d'un coup tout nu, tout vulnérable devant des gens qui vous soignent. Cette douleur est aussi importante. Je pense que pour ceux qui vivent ce que j'ai vécu, ils vont le comprendre. C'est-à-dire qu'on a la souffrance physique, bien entendu, mais on a une souffrance qui est une souffrance morale. Parce qu'on a 20 ans, j'avais 20 ans, et quand vous avez une petite jeune infirmière de l'école qui vient, qui vous passe le bassin et qui vous lève les fesses, vous avez une pudeur, vous avez beaucoup de choses qui se passent. C'est ça qui a été terrible pour moi. C'est-à-dire cette dépendance et cette vulnérabilité que l'on peut avoir dans cette dépendance.
Cette immobilisation et cet accident va donc changer votre vie?
Oui.
Comment est-ce que, lorsque vous allez sortir, vous allez l'aborder? Quelles sont les différences majeures et comment est-ce qu'elles vont se réaliser?
Alors, ce qui est curieux, parce que quand je sors de l'hôpital, on est au mois de fin avril, début mai, fin avril 68, hein, parce que on est en 68, l'accident, et puis après il y a la rééducation, il faut revenir, je reviens chez mes parents, et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour moi. Et ce qui s'est passé. Alors là, c'est difficile parce que vous n'avez aucune littérature à l'époque qui vous parle de ça. Vous n'avez rien. Mais j'avais un libraire qui s'appelait la librairie Mollard à Bordeaux. Et donc, j'ai été dans cette librairie et je suis rentré là-dedans. Et c'était un océan de livres et de méthodes, de machins. Il y avait des livres partout. Et je me suis laissé porter dans cet océan littéraire et il y a un titre qui a attiré mon attention. c'est Au-delà du conscient de Tyrell. Au-delà du conscient. Et je l'ai acheté, pourquoi ? Parce que j'avais vraiment le sentiment que ce livre était vraiment la réponse à mon au-delà du conscient de mon accident, que je ne pouvais pas comprendre. Donc j'ai commencé à le lire, et puis en même temps j'ai un événement qui est extraordinaire, qui est arrivé pour m'accompagner, c'est l'événement de mai 68, c'est-à-dire que c'était le bouleversement dans les rues. C'était feu à sang, les étudiants, voilà, c'était la grève, ainsi de suite, qui m'a obligé de rester chez moi et de lire ce livre. Alors, je ne comprenais rien, c'était une nouvelle langue, c'est comme si j'apprenais autre chose. Il y avait des notions telles que médium, telles que beaucoup de choses quoi, dans ce livre, mais il a eu une approche littéraire qui m'a permis de comprendre qu'il y avait autre chose que les simples mots que j'entendais à l'hôpital. Vous avez un accident, ça arrive à tout le monde. Bon, voilà, j'avais vécu autre chose et je ne pouvais pas en parler. Et donc, là, j'ai lu ce livre.
Pourquoi vous ne pouviez pas en parler ?
Parce que les gens sont stupides, ils ne vous écoutent pas. Ça n'existe pas, c'est de la connerie. Et comment vous voulez, vous, quand vous l'avez vécu, quand vous dites que c'est la stupidité et que vous avez 21 ans, vous fermez votre boîte en disant « on ne va pas m'écouter ». C'est le problème des gens, on n'écoute personne. On n'écoute que ce qu'on croit savoir, hein. On n'écoute rien d'autre. Et là, finalement, j'ai lu ce livre et voilà.
Ce livre, qu'est-ce qu'il vous apporte ?
Alors, il ne m'apporte rien, il m'apporte juste des portes ouvertes. Disons qu'il y a autre chose et qu'il y a des possibilités. C'est des possibilités qui sont au-delà de ce que je connais. Des possibilités corps médium, j'avais jamais entendu parler de ce mot, mais il en parle.
Intuition,
et ça c'est très important. L'intuition va venir après, on en parlera après de cette intuition. Intuition, ainsi de suite. Et Tyrell dit des choses extraordinaires. Il dit que l'homme a été puissant dans sa pensée et il a tout canalé. Et pourtant, l'intuition a aidé beaucoup de personnes à développer la science. Hein. C'est par des intuitions. N'oubliez pas que ceux qui ont découvert le transistor, ils travaillaient le silice, ils le travaillaient pour avoir le silice le plus pur possible. Et puis, ils n'y arrivaient pas à le développer. Et puis, tout d'un coup, il y en a un dit, si on mettait quelques impuretés dedans, ils ont découvert le transistor. Hein. Donc, vous voyez, c'est un type qui est arrivé en faisant un petit peu, mais il y a beaucoup de choses. Mais on n'est pas là pour, dans ce genre de propos que j'ai ce soir, on n'est pas là pour contrecarrer une science ou autre chose, mais il faut dire aussi qu'il y a des choses qui sont tout à fait surprenantes, dont ce livre m'a ouvert. Et alors, la fin du printemps arrive, les gens se calment, mai 68 se calment, parce que moi j'avais des cannes anglaises, hein, je ne pouvais pas me déplacer, donc. Et je m'assois sur un banc, et sur ce banc, il arrive un monsieur à côté de moi, et qui me dit, ces cannes anglaises racontent une histoire, hein. Et je lui raconte mon accident. Et ce monsieur s'appelle Jean-Raphaël, je ne dirai pas son nom entier, parce qu'il habite maintenant à Saint-Angrasse, donc il s'est retiré. Et il était professeur de Kundalini Yoga. Et il m'a donc invité à venir chez lui pour faire du yoga. Alors le Kundalini Yoga, c'est quelque chose d'énergétique, c'est réveiller le serpent qui est entouré à l'intérieur de soi, le Kundalini, ce qu'on appelle. Mais seulement il me vendait en même temps quelque chose auquel je n'adhérais pas vraiment, c'est-à-dire qu'il me vendait le fait qu'il faisait venir un grand sage qui nous parlait ainsi de suite. Pour moi, j'étais toujours dans la découverte personnelle. Le livre « Au-delà du conscient », ce livre, et j'étais surtout quelqu'un qui avait toujours essayé de comprendre les choses par moi-même. Étant adolescent ou étant après l'accident, le livre, j'ai essayé toujours d'essayer de comprendre ce que je pouvais arriver à tirer de mes impressions mentales. Et donc, je lui ai dit à Jean-Raphaël que j'aimerais continuer mon chemin seul. Il était tout à fait d'accord avec moi. Et donc, j'ai continué, mais j'ai continué pas du tout seul. J'ai continué avec un autre livre de Swami Vivekananda, qui est Raja Yoga, ou la conquête de la nature intérieure. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un grand combat à mener, mais pas avec les autres, mais avec soi-même. Donc, c'est là où j'ai commencé à comprendre que le combat, il était surtout avec moi, et avec mes certitudes, avec mes bêtises, avec mon ânerie, avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez pas. Le combat, il était là. Et ce livre de Swami Vivekananda, j'ai commencé à le lire, et j'ai commencé à, d'abord en le lisant, à comprendre qu'en plus d'être accidenté, je n'avais que 22 ans et qu'il fallait peut-être revenir au travail. Et pour cela, alors je peux citer son nom, c'était une entreprise Dupin à Bordeaux, j'étais peintre industriel, c'est pour ça que l'accident, je suis tombé d'un pont roulant. Et donc je suis venu voir M. Dupin qui m'a dit bah, « Écoute Jacques, il faudrait que tu te recycles, alors on va te faire passer tes permis de conduire et tu vas rentrer à la ville de Bordeaux comme conducteur-receveur de bus ». Parce que la vie, c'est un grand parcours. Hein. Ce n'est pas un seul parcours, c'est un grand parcours. Donc, pour ce faire, ce livre que j'avais, j'essayais de mettre tout en pratique, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi ? Parce que quand j'étais dans la vie, je rentrais, je voulais aller à la méditation, je voulais faire quelque chose, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Alors, comme je passais mes permis de conduire, que j'ai réussi, transport en commun et tout, et j'étais fier comme un bureau de tabac, comme on dit, comme un bar tabac, j'étais fier. J'avais mon permis de conduire, j'allais rentrer au bus de la ville de Bordeaux. Donc, avant de rentrer à la ville de Bordeaux, j'ai décidé de me retirer dans l'appartement d'un de mes amis à Lacanau-Océan pour essayer de mettre en pratique tout ce que le livre disait.
Vous vous isolez dans la nature.
Dans la nature. Alors, je commence par une grande marche à pied le long du littoral aquitain. Et là, je me rends compte, alors les vagues, c'était comme un métronome qui me faisait rentrer des idées dans la tête ou pas. Et là, je me rends compte que ma vie était une mécanique, était insoluble, que finalement, je vivais, mais sans rien, que j'étais une mécanique. Et là, je comprends vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Alors, je me mets à genoux dans le sable, et j'essaie de méditer. Alors là, j'ai compris une grande chose, et que là, dans le livre, je le dis, et je peux le dire aussi à la radio, les livres sont très puissants, ils peuvent vous dire des choses merveilleuses, et ils sont bien faits pour ça, les livres, mais tant que vous ne les mettrez pas en pratique, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique les choses. Et là, je vois que quand je commence à méditer, comme je faisais à la maison, eh bien, j'ai des crampes aux pieds, j'ai envie de me gratter, je n'y arrive pas. Et là, je comprends une seule chose, ce que j'avais compris quand je suis revenu dans mon corps, c'est la respiration. Je me suis concentré sur ma respiration et j'ai commencé à inspirer profondément, à expirer, à inspirer, à expirer. Et tout d'un coup, il m'est arrivé une idée. Alors, j'ai eu cette idée qui est arrivée en voyant des chats. Hein. C'est en voyant des chats respirer, à calmer ma respiration, c'est-à-dire qu'elle soit dans un mouvement sans à-coup. Et tout d'un coup, je suis rentré à l'intérieur de moi-même. Alors, ce que j'ai vu, c'est rien d'autre que moi. Hein. Je me suis rencontré, mais j'ai vu surtout quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui, alors les psychologues en parlent, mais j'ai vu ce petit Jaco, ce petit garçon, qui était le petit garçon qui était derrière cette pile de bois et qui disait « T'inquiète pas, quand tu seras grande, ça ira mieux ». Et j'ai vu ce petit garçon, et à partir de là, j'ai compris qu'il fallait à l'intérieur de soi s'écouter, se parler et s'aimer, surtout. L'essentiel, c'est on peut s'aimer, parce que je pense que le problème que j'avais, c'est que je ne m'aimais pas, parce que personne ne m'avait dit que j'étais quelqu'un de bien, surtout pas mon père géniteur ne l'avait pas dit, donc il n'y avait que Claude Ménestré, mais bon, Claude Ménestré est arrivé après Lacanau-Océan, donc voilà. Donc je crois que j'ai compris là, à partir de ce moment-là. Et je dis que, alors je l'écris dans le livre, je reviens à ma vie, donc je vais reprendre ma vie active, c'est-à-dire comme conducteur-receveur. Pendant les premiers mois, je ne fais rien, je ne médite pas rien, j'essaie de me mettre en adéquation avec mon métier de conducteur-receveur. Un bus de 54 personnes, ce n'est pas un vélo, ce n'est pas une voiture, hein, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. Hein, et apprivoiser, vous apprivoisez le virage, vous apprivoisez le frein que l'on doit mettre pour éviter un accident, ainsi de suite. C'est quelque chose de particulier. Donc pendant quelques mois, je n'ai pas du tout fait de méditation, rien. Je me suis oublié, j'étais que conducteur-receveur. Et quand j'ai voulu reméditer, il y a quelque chose qui s'est passé.
Alors, à quel moment vous mettez à reméditer? La discipline dont vous parlez tant va se mettre en place.
Oui.
Quel est le déclic et pourquoi?
Le déclic vient parce que ma vie, j'ai compris que quand elle redevenait mécanique, je me levais, je faisais mon circuit, hein, je faisais ma pause, je disais bonjour aux gens, je rentrais, ainsi de suite. C'est-à-dire que je redevenais un conducteur-receveur de la vie de tous les jours. Mais j'étais en dehors de la recherche que je voulais faire du pourquoi il m'est arrivé cet accident. Parce que le but, c'était de rechercher pourquoi j'ai eu cet accident, qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi j'ai eu cet accident et pourquoi je suis en vie?
Et pourquoi je suis en
vie? Alors que je devrais être mort.
Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'il y a autre chose après, puisque je l'ai vu, pour moi c'était une certitude, puisqu'il y a autre chose après, il faut que je comprenne ce qui s'est passé après. Je suis obligé de comprendre ce qui se passe. Donc, si je reste comme conducteur-receveur, je vais oublier tout ça et l'accident, il sert à quoi? Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où je prends le déclic et je reviens dans la méditation, je ne reviens pas dans la méditation pour méditer, je reviens dans la méditation pour me re-rencontrer, parce que je m'étais perdu en tant que conducteur-receveur. C'est-à-dire que je vivais ma vie de tous les jours et j'étais plus dans ma démarche de recherche que j'avais, puisque j'avais une grande démarche de recherche après l'accident. L'accident, n'oublions pas, il y a la canot océan, je pars là-dedans. Et là, à partir de ce moment-là, je comprends que je suis que conducteur-receveur, que j'ai oublié. Et donc, je reprends le matin, je me réveille à 6h du matin, je vais prendre ma douche.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous faites une discipline, vous vous levez une heure avant,
oui,
votre réveil habituel.
Oui.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans cette démarche?
Alors, c'est nécessaire pour avoir le temps d'abord d'aller me rencontrer. Parce que si je me réveille 10 minutes avant d'aller au boulot, je ne vais pas méditer, je vais m'asseoir et donc je reviens pour essayer de reméditer comme j'ai fait à la canot océan, la respiration. Concentrer, revenir à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre. Et là, une heure avant, cette discipline, pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire, le temps de se lever, de se mettre en place, ainsi de suite. Je suis obligé de me lever plus tôt. Et donc, ce qui se passe là, c'est que je suis encore perturbé. Je ne comprends plus, la méditation n'était plus la même qu'à la canot océan. À la canot océan, c'était simple. Je méditais, j'avais les oiseaux, j'avais le vent, j'avais tout, j'étais bien. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé de ma méditation, j'étais presque comme les arbres, j'étais comme la mer, j'étais le tout. J'étais plus moi, j'étais l'ensemble tout, j'étais. J'étais même le grain de sable à côté de moi, j'étais dans la nature complète. C'est fabuleux hein, quand on médite comme ça. C'est-à-dire qu'on devient le grand tout. On est dans l'ambiance de là où on est quand on médite. Je vais méditer, par exemple, au centre-ville. Si je m'assois sur un banc, j'aimais bien sur la place là, ici, de m'asseoir. Et j'aime bien aller entendre, par exemple, un oiseau qui chante au loin et le mettre dans mon oreille. Et puis je l'entends, même s'il y a des bus qui passent, même si je l'entends, l'oiseau, et ça me fait plaisir. Mais là, et donc, il y a un tas de choses. Et là, je comprends qu'il y a une grande différence entre méditer quand on est dans la solitude, quand on n'est pas en rencontre avec les autres, parce que c'est ça, c'est quand on est mélangé avec les autres, on n'est plus avec soi-même, on est avec les autres.
C'est difficile de se concentrer quand il y a beaucoup de bruit.
C'est très difficile.
De retrouver, faire abstraction de tout ça, comment on fait?
C'est impossible. Il faut du temps. C'est pour ça que je dis qu'il faut du temps. Il faut de la patience, de la persévérance. Il faut vraiment, vraiment faire un
Il faut travail. De la volonté, de la persévérance pour arriver sur ce chemin de l'être. Vous en parlez, la méditation, un chemin vers soi. Donc c'est vraiment,
oui, c'est ça.
On est dans ça. Mais pour atteindre ça, il faut une discipline absolument.
Il faut, c'est-à-dire la première des disciplines, c'est d'abord la volonté et la persévérance. C'est-à-dire que vous pouvez la faire avec de la volonté pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, rien ne se passera. La persévérance fait qu'il faut dépasser le trois mois, le quatre mois. C'est-à-dire que, je dis toujours, les mystères sont tellement mystérieux qu'ils se cachent en pleine lumière. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la clarté pour trouver l'essence même des choses. Et donc, là, je comprends qu'il se passe des choses, mais je ne suis plus dans le même contexte. C'est-à-dire que l'hôpital, j'avais des moments de solitude la nuit. J'avais des moments de solitude quand les infirmières sortaient des soins, ainsi de suite, j'étais seul. Et là, à la Cano-Océan, j'étais seul. Là, je rencontrais des gens. J'avais la mamie qui me souriait, la maman qui courait pour attraper le bus parce qu'elle était en retard. Et puis surtout, j'ai compris également que les êtres humains, même sans s'en rendre compte, on communique par la pensée, aussi curieux que ça puisse paraître. Les gens qui pensent, si vous êtes quelqu'un de sensible, vous pouvez avoir une idée qui arrive. N'oublions pas que nos yeux sont des caméras, nos oreilles sont des enregistreurs. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de nous rentre dans notre cerveau. Et donc, le soir, quand vous arrivez chez vous, vous avez des pensées et tout qui ne sont pas forcément des vôtres. Ça peut arriver d'un contexte extérieur. Donc, et là, je me rends compte. Et alors, j'avais lu dans les livres, surtout avec la philosophie, parce que j'ai parlé de deux livres, mais j'en ai lu beaucoup de philosophie, notamment Socrate et La caverne de Platon. La caverne de Platon, c'est quoi la caverne de Platon? C'est-à-dire que les gens qui sont enfermés, et derrière eux, il y a un feu, et puis des gens qui font des ombres, il y a des gens qui s'en va, il y en a un qui s'en va, il voit la réalité. Et la réalité, c'est-à-dire voir que nous vivons dans les illusions, c'est-à-dire que la vérité, c'est des fois, elle arrive comme ça. Et donc, j'ai pris les hypomémenta, c'est une méthode, c'est Néron qui avait ça, c'était une femme d'un illustre personnage, elle notait tout sur une feuille de papier ce qui se passait. Et donc, j'ai pris, moi, le soin d'écrire tout sur un bout de papier ce qui se passait dans ma journée. Et après, je le relisais. Et j'ai réussi à voir ce qui m'appartenait et de ce qui ne m'appartenait pas, ce qui appartenait des autres et ce qui était de moi. C'est là où j'ai découvert mes intuitions, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai décidé, alors c'est curieux ce que je vais vous dire, hein, j'ai décidé d'arrêter mon métier de conducteur-receveur, parce qu'il y avait autre chose qui m'appelait.
Qui va vous mener où alors?
Alors là, on y arrive. On y arrive, ça m'amène à un chemin qui est un chemin. Donc je suis encore conducteur-receveur, mais il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le contact physique avec les personnes. C'est-à-dire que quand je suis dans le bus, conducteur-receveur, bonjour madame, bonjour monsieur, vous savez, ça passe, on voit et tout ça, on n'a pas le contact avec les gens. Donc je décide...
Un contact de passage.
C'est éphémère. Un contact de passage, éphémère. Et là, je décide d'arrêter mon métier de conducteur-receveur. Et j'avais un monsieur qui m'avait proposé d'être vendeur de voitures chez Talbot Renaudel à Bordeaux. Et donc, j'ai décidé d'aller vendre des voitures. Mais avant d'aller vendre des voitures, je me suis retiré dans un bois chez mes parents, chez Claude Ménestré, à Montussan. Il avait un petit bois derrière et je me suis assis sur une souche de bois. Alors c'est curieux ce que je vais vous dire. Je peux le dire parce qu'on parle là. Je l'ai écrit, mais on parle. Je me suis assis sur cette souche de bois. Et quand j'étais tout petit, mon père était un violent. Et j'avais vraiment peur de lui. Et quand j'entendais qu'il arrivait, j'allais me planquer derrière une pile de bois. Et je me disais, c'est là où je me disais, quand tu seras grand, ça ira mieux.
Quand vous entendiez le bruit de sa mobilette.
Quand j'entendais le bruit de sa mobilette. Et donc je me planquais et je me suis assis sur ce... Et je n'ai pas, alors je le dis, mais je ne veux pas aller jusque dire, est-ce que ça ne serait pas l'arbre, la souche de l'arbre coupé qui m'abritait? Parce que l'arbre, le bois, il absorbait mes craintes et maman, elle allait faire brûler ce bois. Et mes craintes étaient brûlées dans le feu. Donc ça partait. Ouais, ça partait. Et là, je m'assois sur cette pile. Et là, je réfléchis. Et je commence à comprendre ce qui va se passer pour moi. Il faut que j'aille rencontrer ces gens. Il faut que j'aille parler avec les gens. Donc je démissionne et je m'en vais vendeur de voitures. Et alors, c'est tout à fait curieux. J'ai vendu pendant quelques mois des voitures, mais j'étais un très mauvais vendeur. Pourquoi ? Parce que, mais très mauvais vendeur. Et j'avais Daran, qui était le directeur des ventes, il me disait, Jacques, mais il faut augmenter ton chiffre d'affaires, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais forcément, je travaillais comme un dingue. Je travaillais, mais j'étais chez les gens à parler. C'est fou quand vous vendez une voiture avec les gens commençant, les gens sympathiques chez eux. Et on voit comment les gens sont fragiles. Ils parlent avec vous. Vous avez un vrai contact avec les gens. Moi, je venais vendre des voitures, mais j'étais en empathie avec eux. Je les écoutais, et d'écouter leur vie, leurs désirs, leurs peurs et tout ça. Et leur désir, parce que les gens achetaient des voitures. J'ai des anecdotes, mais dans le livre, je les... pas mis toutes ces anecdotes parce que finalement, mais je me rends compte que les gens qui ont des besoins, soit de voitures, de télévision ou autre chose, c'est pour ça qu'il y a des lois et qui les protègent, les gens, parce que les gens sont très vulnérables, peuvent acheter n'importe quoi parce que ils ont des besoins, ils ont besoin de communiquer.
Si le vendeur est persuasif et pas très honnête.
Voilà.
C'est pour ça que ces lois sont faites pour les protéger.
Et à l'époque, quand je vendais les voitures, il y avait cette fameuse loi de Scrivener, ce qu'on appelle la Scrivener, qui était les 7 jours qu'il fallait pour arriver. Bon. Mais donc, j'étais un mauvais vendeur et je dis qu'il y a des vendeurs très honnêtes qui vendent les produits aux gens comme il faut. Attention. Mais moi, j'étais pas fait pour vendre des voitures.
Et donc, à l'issue de ça, vous avez vendu des voitures. Alors, le bus, conducteur de bus, vendeur de voitures, et ensuite, vous arrêtez.
Et ensuite, je rearrête.
Et c'est là que l'aventure commence.
Je décide de m'arrêter et d'ouvrir un cabinet de parapsychologie.
Alors, comment est-ce que vous en arrivez là, Jacques?
Alors, c'est très simple. Ma littérature m'a amené. La littérature, notamment Au-delà du conscient, de Tyrell, qui était un parapsychologue. Alors, la parapsychologie, il faut savoir ce que c'est.
La parapsychologie, qu'est-ce que c'est? Voilà,
il faut savoir ce que c'est. Alors, la parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes paranormaux. On les comprend, on les explique ou on les reproduit. Si on reproduit un phénomène, il n'est plus paranormal. Il s'appelle scientifique. C'est-à-dire, on reproduit toujours. Donc, c'est l'étude. Alors, vous aviez eu Lignon, un professeur à la faculté de Toulouse, qui avait fait une chaire de parapsychologie. Mais j'avais mis parapsychologue parce que je ne connaissais pas encore, je ne voulais pas encore voyant, mais je ne me reconnais pas dans tout ça. Donc, ça existe, mais je ne me reconnais pas.
Et
donc,
vous, ça n'était pas l'essence de ce
c'était
que
pas
vous
mon
ressentiez.
Ce n'était pas mon ressenti. La parapsychologie, mais c'est surtout conseiller en ressources personnelles. Je m'étais installé. Et je vais vous faire sourire. Je recevais de l'INSEE et tout ça un tas de publicités parce que les ressources humaines, c'est la gestion du personnel. Et pour moi, la gestion personnelle, les ressources personnelles, bien sûr du personnel, les ressources personnelles, pour moi, les ressources personnelles, c'est les siennes. J'ai changé mon intitulé et j'ai mis « conseiller en développement des sciences humaines ». Voilà, donc j'étais installé comme ça. Donc j'ai commencé à recevoir la première personne qui est venue vers moi. Et alors là, c'est un gros dilemme et je suis heureux d'en parler parce que c'est un gros dilemme. Le premier, je ne dirai pas son nom, mais ce monsieur vient me voir. Et je ne savais pas ce que j'allais lui dire parce que je me suis installé comme ça. J'ai mis quelques prospectus. C'est l'époque. On est en 81. C'est pas hier. C'est 81. Et je lui demande une photo et je commence à parler de lui, dans sa vie, ainsi de suite. Il se lève, il m'arrache la photo des mains et il me dit « Vous avez fait une enquête sur moi ?» Et je lui dis « Mais monsieur, vous êtes venu voir qui ?» Et il me dit « Je suis venu voir quelqu'un pour des conseils. Ben, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et ce monsieur, je l'ai revu depuis. Mais c'est-à-dire qu'il y a un gros, gros, gros problème dans l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain veut savoir ce qui va se passer, mais ne corrige pas ce qu'il a fait pour arriver à ce qui va se passer. Donc il faut corriger des choses. Et quand on vient voir un garçon comme moi, il vient vous faire voir ce que vous ne voyez pas. Ce n'est pas que vous ne voyez pas, ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous êtes à l'intérieur de vous. le bien, le mal. Et
alors pour ça, il faut se remettre en question. Et comment est-ce qu'on arrive à se faire remettre en question quand on a des gens qui sont un peu fermés sur ce qu'ils entendent ?
Il faut y aller. Alors, bien entendu, je discutais beaucoup avec des gens qui me disaient à l'époque, il faut, vous savez, en psychologie, il faut vraiment prendre des gants. Et bien, à force de prendre des gants, vous avez vu la société dans laquelle nous sommes. Quoi. On prend tellement de gants que... Il faut regarder ça, quoi. On prend tellement de gants. Non, ce qu'il faut regarder, c'est que... je vais vous raconter une anecdote qui est tout à fait... Une dame vient me voir parce qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, elle voulait divorcer. Et je lui ai dit à cette dame qu'elle avait tort, parce qu'elle avait un mari, mais bien sûr, son mari, elle ne l'aimait pas, et elle aimait quelqu'un d'autre, ouais, mais c'était un mec qui était bien, et qu'il allait accepter le divorce, même lui donner l'argent de la maison qu'ils avaient, tout ça. Mais attention, le monsieur qui arrive avec vous, il n'est pas du tout comme vous pouvez imaginer. Et elle ne m'a pas cru, elle s'est levée très mécontente de moi. D'ailleurs, j'ai arrêté ce métier de parapsychologue parce que j'ai vu l'inutilité, hein, l'inutilité du métier. Hein. Donc, et j'ai dit, attention, cet homme-là, c'est un monsieur qui est méchant. Il vous aurait... Elle est partie très en colère de mon cabinet, de mon bureau. Et je l'ai revenue quelque temps après. Elle m'a demandé, parce qu'elle s'est levée en colère et je ne lui ai pas fait payer. J'ai dit, vous êtes venu voir quoi ? Je ne suis pas venu voir quelqu'un, un psychologue, rien. Elle est partie sans payer, bien entendu, parce que j'ai refusé qu'elle paye. Il faut vous dire que je prenais 20 francs à l'époque. Ce n'était pas grand-chose. Hein. Et donc, 3-4 ans après, cette dame est revenue me voir en me disant, est-ce que vous pouvez m'aider ? Parce qu'effectivement, vous aviez raison, cet homme. Et là, je me suis levé, je lui ai dit, madame, je ne peux plus rien pour vous. Alors, si j'avais été un psychologue, je l'aurais aidé. Mais je ne suis pas un psychologue. Je ne peux pas aider à quelqu'un qui va se faire mordre par un chien puis qui remet la main dans la gueule du chien. Hein. Donc voilà, je suis méchant quand je dis ça, mais bon, c'est une vérité.
Ce sera censuré, ne vous inquiétez pas.
mais
carré rouge.
j'aime bien la censure, c'est bien. Et alors, voilà, donc, là, le boulot commence. Je rencontre un ami, alors je peux en parler, c'est Bruno. C'est Bruno, un jeune médecin. Il était médecin. Et il vient me voir et parler avec moi. Et quelque temps après, il revient me voir. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Et il me dit, voilà, non, tout va bien. Et j'ai une amie qui voudrait vous rencontrer. Est-ce que vous voudriez la voir ? Et je lui dis oui. Je veux bien la voir. Elle s'appelait Paul. C'était une astrologue karmique. Elle est morte maintenant, une personne qui avait sa fille, qui était une médium et qui communiquait. Alors, ils habitaient à Caen et lui travaillait dans une grande entreprise de matériel et ils sont venus habiter à Bordeaux, à Pessac exactement, juste parce que leur fille communiquait avec un soldat de l'armée allemande qui était décédé dans un blockhaus qui s'appelait Ludwig. Et à Bordeaux, et à Pessac exactement, ils sont venus et ils sont rentrés dans ce blockhaus avec la gamine qui avait 5-6 ans et qui communiquait avec ce soldat allemand. Et aussi curieux que ça puisse paraître, ils ont fouillé dans ce blockhaus et ils ont trouvé une gourmette où il y avait marqué Ludwig dessus. Alors c'est curieux, hein, mais bon, il y a des similitudes qui font. Et donc cette personne, Paul, m'a entraîné à mieux me comprendre sur un plan astrologique, hein, puisque je suis né le 20 juin 1947 à midi, m'a fait voir que j'avais des qualités intuitives. Je n'étais pas surpris qu'elle me dise ça, parce que c'était une vérité. Et donc, à partir de là, cette personne m'a entraîné à faire du spiritisme. Donc, spiritisme avec Paul, sa fille, Isabelle, mon épouse, Françoise, et moi. Et donc, nous avons commencé à faire du spiritisme.
Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le spiritisme ? Alors, comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, comment ça fonctionne ? Alors, je vais le faire en étant très lucide. Le spiritisme peut être quelque chose qui C'est d'abord, vous mettez des lettres alphabet sur, en rond. Il y a le Ouija, il y a différentes choses, mais des lettres alphabet. Et vous mettez un verre et chacun met son doigt sur le verre. Et le verre bouge. Il s'en va à droite et à gauche sur chaque lettre. Et ça donne un message. Voilà. Donc le spiritisme, alors c'est très très ancien, hein, le spiritisme, il y a beaucoup de personnes, la Pythie, le temple de Delphes et ainsi de suite, c'est très vieux tout ça, et la communication avec l'au-delà. Vous avez un très bon livre qui est fait de Victor Hugo, c'est les tables de Victor Hugo, et je ne l'ai pas aimé ce livre, pourquoi ? Parce que à l'époque, c'était l'époque où les gens avaient commencé à faire du spiritisme. Et Victor Hugo, et quand il a été estradé, enfin il est parti à Jersey, il a fait du spiritisme. Et alors ce que j'ai pas aimé dans son livre, le livre des tables, il y a les gens qui peuvent le lire, il convoquait l'au-delà. Il convoqua à telle heure, vous venez pour qu'on parle. Là, on convoque pas l'au-delà. C'est pas la même chose. Hein. L'au-delà, il est au-delà de notre conscience. Il est au-delà de nous. Hein. Donc voilà. Et donc le spiritisme, c'est ça. Et donc, je me suis laissé entraîner là, dans ce verre. Alors, le premier, c'est elle a discuté avec Isabelle. C'était Ludwig qui parlait avec elle. Après, il y a eu quelqu'un qui est avec Françoise, mon épouse. Je vous parle de ça, il y a 40 ans. Hein, d'accord, c'est pas hier. Hein, et puis, c'est arrivé à moi. C'est arrivé à moi. Et ce personnage, alors, je le nomme Mathieu. Il s'appelle Mathieu, qui m'a expliqué que pendant l'accident que j'ai eu, c'était lui. Et il a dit un mot qui était un mot pour moi, qui m'a un petit peu, je dirais, réconforté dans ce que j'étais. Il m'a dit « t'es médium ». Alors, je ne vous cache pas qu'on se connaît depuis 30 ans, tous les deux. Je ne vous cache pas que j'ai toujours refusé de m'appeler médium. Pourquoi ? Parce que c'est tellement exploité dans des conditions difficiles aujourd'hui que la médiumité, c'est quoi exactement ? C'est l'intermédiaire, c'est le média. Média. Médium, c'est média. C'est comme la radio. Vous avez ça, vous voyez, vous êtes le média entre moi et ceux qui vont écouter. D'accord ? Et ceux qui écoutent, c'est le média. Voilà. Et donc, il m'a expliqué ça. Et alors, je le dis dans le livre, un jour, Françoise pose une question, parce qu'on cherchait un appartement, et elle est un peu plus rationnelle, mon épouse, et elle dit, elle demande à Mathieu de nous dépeindre l'appartement dans lequel nous allons être. Et donc l'appartement est celui-ci. Oui, vous allez trouver un appartement. Voilà, la maison est comme ça. Vous avez 3 marches pour entrer, 5 porte-fenêtres, des petits carreaux et une vitrine de magasin pour une autre 6e fenêtre. Et derrière, une plateforme. Bon, on écoute ça, on est content et on s'en va. Et je connaissais juste mon épouse, hein, je n'étais pas encore marié avec elle, ça fait 43 ans qu'on est mariés, donc vous voyez, donc on s'en vient ici, parce qu'elle est béarnaise, et on vient ici en vacances, et en retour de vacances, après le mois de décembre, on va chercher un appartement, donc on arrive à Capéron, dans une agence immobilière, et ils ont des maisons à visiter, et ils nous font visiter une maison, on arrive à l'Échalier, à Pessac. On arrive là-dedans, et la maison, 3 escaliers, 3 marches pour entrer, une porte, des vitres à petits carreaux. Derrière, c'était une grande vitrine. Alors, c'était les porte-fenêtres étaient à petits carreaux, et là, c'était des grands carreaux. Vous voyez, c'était comme une porte. Et donc, il y avait des travaux à faire. On dit à l'agence, écoutez, on prend. Là, il y a des travaux à faire, on les prendra à notre compte. On était ravis. Ça tombait pile poil dans ce qu'on avait dit. Et alors, c'est important ce que je vous dis, parce que des fois, on pourrait penser que c'est notre conscience qui parle, ou nos désirs. Hein. Mais là, on était content. Et donc, on est dit, on prend la maison. On est content, on la prend. Et donc, une fois qu'on a la maison, on signe l'échec. L'agence nous dit, mais je le transmets au propriétaire, mais je n'ai pas l'exclusivité, on va voir. On rentre, on va voir Paul et on fait le verre. Et le verre nous dit déménage, 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 déménage. On ne comprend pas. Bon, on rentre à la maison avec Françoise, on était jeune couple, hein. On rentre Françoise, on se réveille et on reçoit un coup de téléphone de l'agence qui nous dit « Écoutez, repassez chercher votre chèque parce que la maison est louée. » C'est extraordinaire, c'est la maison est louée. Donc tout ce que nous avait dit le verre, enfin le spiritisme, ça tombait à l'eau puisqu'on ne l'avait plus. Ça tombait à l'eau. Et donc, furax un peu, pas furax, mais un petit peu déçu.
Contrarié.
On revient voir Paul, on refait du verre, et le verre nous dit déménage. On rentre. Et le samedi, le dimanche, c'était le dimanche matin, on se réveille, on reçoit un coup de téléphone. Oui, bonjour monsieur, oui. C'est vous qui êtes intéressé par l'allée Chalier, l'appartement, l'allée Chalier. Et là, très honnêtement, moi qui suis un petit peu coquin, je dis, attends, mais pourquoi il m'appelle celui-là ? Voyez pas que le propriétaire lui refuse de louer l'appartement parce que moi j'avais dit que je prendrais les travaux à ma charge. Je lui dis, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone ? Il m'a dit, voilà, écoutez, j'ai loué l'appartement que vous sollicitez. Le problème, c'est que je devais être muté et la mutation ne se fait pas. Et le propriétaire refuse de me donner la caution. Parce qu'il l'a perdu. Est-ce que vous êtes toujours intéressé ? J'ai dit, qui c'est ? C'est M. Sixens, Arcachon. Et j'ai dit, ben écoutez, je prends. Et le dimanche après-midi, je signais le bail pour la maison. Donc, vous voyez, si, c'est pour ça que je crois qu'il y a autre chose après la mort. D'accord ? Parce que c'est pour moi une vérité vraie. Pour moi, c'était une révélation. Une révélation. Et à partir de là, tout a changé. Pourquoi ? Parce que j'avais enfin compris qu'il y avait autre chose, mais au-delà de notre propre conscience.
Tout ceci est retrouvé dans votre livre, Un point de vie, un point de vue. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour finir, pourquoi avoir écrit ce livre ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et à nous raconter tout ça ?
Jacques. Alors, pour être plus explicite, j'ai arrêté d'être parapsychologue à 60 ans, 62 ans. J'ai arrêté et j'ai décidé d'aller mettre mes capacités humaines au service des autres. Donc je me suis investi énormément dans le bénévolat. Je suis devenu président d'association. J'ai été élu dans une petite commune béarnaise. J'ai fait un premier mandat en tant que conseiller municipal, puis adjoint au maire. Et j'ai décidé d'écrire ce livre. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais dépouiller un tout petit peu l'illusion, le maya, ce qu'on appelle l'illusion. C'est-à-dire de dire, OK, tout est possible, mais tant que vous n'avez pas fait l'essai, rien n'est possible. Il faut le faire. C'est-à-dire que vous pouvez savoir comment on fait du vélo, mais si vous ne montez pas sur le vélo, vous ne saurez jamais comment on fait du vélo. C'est-à-dire le faire. Et j'ai écrit ce livre à 78 ans, puisque je fais 79 ans là. Il est sorti au mois de juillet 2025. J'ai écrit ce livre pour une simple raison, pas pour gagner ma vie. Non, non, non. Parce que ça ne sert à pas grand-chose. Je l'ai fait tout simplement pour dire... Voilà, mon parcours, il est ce qu'il est. Mais si quelqu'un tombe dessus, et je vais vous raconter une anecdote d'un monsieur que j'ai rencontré au Halles, à qui j'avais offert mon livre, et qui avait les larmes aux yeux en me disant merci de l'avoir écrit, parce que ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire, ça aide à comprendre, parce que je donne quelques techniques que j'ai prises, moi, personnellement.
Beaucoup de techniques.
Voilà, beaucoup de techniques, notamment la méditation nénuphar. Je pourrais vous en parler de cette méditation nénuphar, parce que je l'ai appelée comme ça, parce que ça me plaisait de la raconter, nénuphar. Voilà. Je l'ai écrit, ce livre, parce que maintenant, je n'ai plus rien à prouver. Je suis à la fin de ma vie, 79, 80 en 2027, je ne suis plus conseiller municipal, je ne suis plus adjoint à la mairie, je ne suis plus rien si ce n'est qu'un être humain, comme tous les êtres humains, qui ait compris quoi ? Ma propre vie, pas celle des autres, mais la mienne, c'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà bien.
et si les gens peuvent arriver à quelques mots qui pourraient se les aider, ainsi de suite, pourquoi pas, pourquoi pas. Et je dis, bon, ce livre, bien entendu, vous pouvez, je vous dirai où vous pouvez l'obtenir, si vous voulez. Mais je vous racontais...
Ah oui, vous allez nous dire où.
Voilà,
je
vais vous dire la méditation Nénuphar, parce que celle-là, elle est intéressante. Alors, je l'ai appelée Nénuphar, mais c'est un petit clin d'œil, parce que je l'ai fait autrement. Je l'ai fait autrement. C'est-à-dire que quand on a des problèmes dans la tête, c'est vraiment ça va pas et ça mine, ça troturne et ça. Vous savez, on a des tendances à ruminer, à changer, à se culpabiliser, ainsi de suite. Et donc, je m'assois au bord d'une rivière où il y a un nénuphar qui est là et je pose mes idées noires sur ce nénuphar et je le regarde partir dans le courant qui s'en va. Et après, quand je reprends cette pensée, je dis, mais t'es stupide, il est là-bas. N'y pense plus. Alors, j'avais compris ça.
Elle est partie.
Elle est partie. Et voilà, c'est la méditation nénuphar. Alors, je vous le dis pour ceux qui peuvent faire aussi, il y en a une autre méthode. Vous êtes en voiture, vous prenez un sac, vous ouvrez un sac. Alors, il est symbolique, le sac, et vous le mettez à côté de vous. Et toutes les idées noires que vous avez, vous les mettez dans le sac. Vous le mettez dans le sac, vous le mettez dans le sac. Alors, les idées noires, c'est quoi? C'est toute la culpabilité ou tous les reproches. J'aurais pas dû, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû. Vous savez, c'est tout. On a tous été là, hein, à se ruminer la tête. J'aurais pas dû faire ça. On est tous là. On le met dans le sac et on ouvre la fenêtre. Et on balance le sac et on continue. Et si on revient tout ça, mais attends, c'est fini, c'est derrière. On n'en parle plus. Voilà, c'est comme ça. La nénuphar, après je te parle beaucoup parce que la respiration, c'est important. Il faut maîtriser sa respiration. Alors, où on peut trouver ce livre, vous allez me dire, ça c'est important. Alors, vous le trouvez sur Internet, vous faites Jacques Ménestré, un point de vie et un point de vue, vous l'avez à la FNAC et tout ça, vous le commandez.
Donc on peut le commander dans tous les sites marchands.
Voilà, ce marchand.
Et à Pau.
Et à Pau, je l'ai laissé en deux endroits, il est en deux endroits, la librairie Tonnet, vous avez Jacques Ménestré, ou alors vous allez rue Montpensier, au bureau de tabac Le Braza. Il en a deux en dépôt-vente. Quoi, hein. Alors, je l'ai laissé en dépôt-vente pour que les gens, s'ils n'ont pas envie de commander... Alors, je n'ai pas mis la barre très haute hein, sur ce livre. Je l'ai, vous voyez, j'ai tapé sur la main, je suis coquin. Je l'ai mis à 15 euros hein, parce que je n'ai pas envie de faire de l'argent là-dessus. Je l'ai fait uniquement pour que les gens puissent retrouver quelque chose qui leur appartient à eux, c'est-à-dire à eux, sortir de cette fameuse illusion.
Un livre émouvant, profond et authentique avec de nombreuses techniques de méditation que vous pouvez donc retrouver dans cet ouvrage, un point de vue, un point de vie. Non, j'ai inversé, un point de vie et un point de vue. On peut faire l'inverse aussi, c'est
tout
pas mal.
Tout à fait, tout à fait.
Et puis, j'aimerais parler de votre site, jaclm.com, où on peut retrouver aussi
.fr.
Toute votre démarche, pardon, .fr, toute votre démarche,
voilà.
Toutes vos pensées, tout ce que vous, tous les messages que vous voulez nous faire passer,
voilà.
Dont vous nous avez parlé, on peut retrouver dans votre livre,
oui.
Mais aussi sur votre site.
Alors, sur le site internet, ce qui est très important, j'en parlais pas, mais c'est jaclm.fr. Et sur ce site, je mets tous les 4 jours une pensée. C'est le carnet intérieur. Et après, je mets des pensées. Je mets « C'est à visiter ».
Cette interview sera à retrouver sur les rendez-vous de Nicolas, en podcast, à écouter, à réécouter. Merci, Jacques Ménestré.
Merci, Nicolas.